Bonsoir frères et sœurs, bonsoir chers amis. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la grâce commune. La grâce commune est un aspect de la grâce de Dieu. Mais avant de nous plonger dans notre méditation, j'aimerais prendre un temps de prière. Nous te remercions Seigneur pour ta parole, nous te remercions pour ta grâce qui se manifeste de façon diverse et variée. Merci Seigneur pour ta bonté envers nous, pécheurs indignes. Mais merci Seigneur parce que tu as manifesté ton amour envers nous en envoyant ton Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre ta parole, qu'elle porte du fruit dans notre vie, pour ta gloire. Amen. En péchant contre Dieu, Adam et Ève ont attiré sur eux la colère divine. Il en est de même pour tous les êtres humains qui pêchent aujourd'hui, car la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La justice de Dieu exige que les hommes qui pêchent soient éternellement séparés de lui, que les hommes qui pêchent subissent la colère de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux anges qui ont péché. Nous lisons en effet dans 2 Pierre chapitre 2 verset 4 « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jour, pour le jugement. » Pour les anges, il n'y a pas eu de salut. Les anges qui ont péché, il n'y a pas eu de salut. Ils ont été précipités dans les abîmes de ténèbres et ils ont été réservés pour le jugement. Donc, une telle chose aurait pu nous arriver. Mais, Adam et Ève ne sont pas morts tout de suite après avoir péché, même si la condamnation commençait à s'appliquer dans leur vie. La sentence de mort n'a pas été exécutée tout de suite, mais elle a été exécutée bien plus tard. De même, les descendants d'Adam et Ève jusqu'à ce jour ne meurent pas et ne vont pas tout de suite en enfer dès qu'ils ont péché, mais elles continuent de vivre et de bénéficier des bienfaits de Dieu. Comment expliquer cela? Comment expliquer que la sentence de Dieu, la colère de Dieu, comment expliquer que cela ne s'abatte pas tout de suite sur nous? Comment Dieu peut-il continuer à déverser d'innombrables bienfaits sur des pécheurs qui ne méritent rien d'autre que la mort? La réponse à cette question se trouve dans la grâce commune. La grâce commune est un aspect de la grâce de Dieu qui se manifeste par des bénédictions que Dieu accorde à tous les hommes, c'est-à-dire les croyants et les incroyants. Toutefois, la grâce commune est différente de la grâce qu'on appelle salvatrice, parce que la grâce commune n'aboutit pas au salut. Quand on considère la vie de tous les jours, on y trouve de nombreuses preuves de la grâce commune de Dieu. Tout d'abord dans le monde matériel. Si les non-croyants continuent de vivre dans ce monde, ils le doivent uniquement à la grâce commune de Dieu. Le moindre souffle de vie est un effet de la grâce divine, car le salaire du péché, c'est la mort, et ce n'est pas la vie. De plus, la terre ne produit pas uniquement des épines et des chardons, comme on lit dans Genèse chapitre 3, verset 18. Elle n'est pas non plus un désert aride, mais par la grâce de Dieu, la terre produit de la nourriture, elle produit de quoi nous vêtir, nous abriter, et cela en abondance et avec une grande diversité. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 44 à 45, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Jésus mentionne ici la grâce commune abondante de Dieu comme un encouragement pour ses disciples à aimer les non-croyants et à demander la bénédiction de Dieu sur eux. Dans Actes chapitre 14, versets 16 à 17, Paul dit aux habitants de Lystre : « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » L'Ancien Testament fait aussi état de la grâce commune que Dieu accorde à la fois aux croyants et aux non-croyants. On lit ça dans Genèse, chapitre 39, verset 5. Potiphar avait acheté Joseph comme esclave, et nous lisons dans Genèse, chapitre 39, verset 5, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. » David aussi nous parle de la grâce commune de Dieu dans le psaume 145. Psaume 145, verset 9. « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Au verset 15 à 16 aussi, nous lisons « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Ces versets nous rappellent que tout ce qui est bon dans la création est un effet de la bonté et de la compassion de Dieu. La nature nous montre aussi des signes de la grâce de Dieu. Bien qu'elle soit soumise à la vanité et sous la servitude de la corruption, comme nous lisons dans Romains, chapitre 8, versets 20 et 21, tout cela à cause de la chute, la nature reste cependant très belle. Nous pouvons observer la beauté des fleurs, la beauté des bois, la couleur merveilleuse des herbes, les rivières, les lacs, toute cette nature qui nous entoure, les montagnes, les océans, tout cela atteste quotidiennement de la grâce commune, ininterrompue de Dieu. Les non-croyants ne méritent pas de jouir de cette beauté, mais par la grâce de Dieu, ils peuvent la contempler toute leur vie durant. La grâce de Dieu se manifeste aussi dans le domaine intellectuel. Satan est menteur et le père du mensonge, nous dit Jean chapitre 8, verset 44. Toutes ses activités tournent autour du mal, du mensonge, de l'erreur. Mais les êtres humains, même les non-croyants, ne sont pas entièrement livrés au mensonge, à l'erreur, à la folie. Tous les hommes sont capables de saisir une part de vérité. Certains hommes sont dotés d'une intelligence et d'une compréhension remarquables. Il s'agit là encore d'un effet de la grâce de Dieu. La grâce commune dans le domaine intellectuel s'observe par le fait que tous les hommes ont une connaissance de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 1, versets 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dieu a permis que subsiste dans le cœur de tout être humain une certaine conscience de son existence, souvent accompagnée d'une soif de le connaître. Toutefois, cette conscience et cette soif se traduisent par des religions humaines très différentes les unes des autres. C'est pourquoi d'ailleurs Paul pouvait trouver une base de discussion dans la connaissance de l'existence de Dieu, même lorsqu'il s'adressait à des adeptes des fausses religions dans Actes chapitre 17. La grâce commune de Dieu dans le domaine intellectuel se traduit également par une capacité à saisir la vérité et à distinguer l'erreur. Elle conduit à un accroissement de la connaissance qui permet à l'homme de découvrir l'univers et de soumettre la terre. Cela signifie que toute science et toute technologie qui sont le fait de non-chrétiens résultent de la grâce commune. La grâce commune permet aux hommes de faire des découvertes, des inventions, de transformer les ressources de la terre, etc. Cela veut dire qu'à chaque fois que nous entrons dans une épicerie, dans une pharmacie, que nous conduisons une voiture, que nous franchissons le seuil d'une maison, nous devrions avoir conscience que nous profitons des effets de la grâce commune que Dieu a déversée avec abondance sur toute l'humanité. La grâce commune de Dieu se voit encore dans le domaine moral. La grâce commune de Dieu empêche par ailleurs les hommes d'être aussi mauvais qu'ils pourraient l'être. La plupart des hommes n'atteignent pas les sommets de dépravation et de méchanceté dans lesquels leur péché pourrait les attirer, parce que Dieu met une limite à leur comportement. Et la conscience qu'il nous donne présente un frein très efficace. Nous lisons dans Romains chapitre 2, versets 14 à 15, « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Ce sens intérieur du bien et du mal que Dieu place en chaque homme fait que les humains adhèrent souvent à des principes moraux qui reflètent ceux de l'Écriture. Même ceux qui s'adonnent au péché le plus vil. Paul nous dit, connaissant très bien la sentence de Dieu, qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Romains chapitre 1, verset 32. Dans bien d'autres cas, cette conscience intérieure conduit les hommes à établir des lois et des coutumes qui sont similaires aux lois morales de l'Écriture. Donc ils édictent des lois qui respectent le mariage, qui respectent la famille, qui protègent la vie humaine, qui condamnent le vol et le mensonge. Bien sûr, toutes ces actions que nous pourrons qualifier de bonnes, que font les non-croyants, ne permettent pas de gagner la faveur de Dieu, parce que ces actions ne sont pas le fruit de l'amour de Dieu, ne sont pas le fruit de l'amour pour Dieu. Elles sont le fruit de l'amour de soi-même dans une certaine mesure. Mais il arrive malgré tout que des non-croyants font le bien. Et c'est ce que nous pouvons constater dans Luc chapitre 6, verset 33. Le Seigneur dit dans Luc chapitre 6, verset 33, « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. » Donc il veut dire par là que les pécheurs aussi peuvent faire ce qui est bien. La grâce commune de Dieu peut s'observer dans un autre domaine, dans le domaine artistique par exemple. Dieu a accordé aux êtres humains des talents variés qui leur permettent d'être créatifs dans beaucoup de domaines, dans la musique, dans le sport, dans les arts et bien d'autres encore. De plus, Dieu nous donne la capacité d'apprécier ce qui est beau, ce qui est bien, dans de nombreux aspects artistiques. Dans le domaine du sport, des arts, de l'intelligence, il peut même arriver que les bénédictions de la grâce commune soient plus abondantes pour les non-croyants que pour les croyants. À Dieu seul soit la gloire dans tous les cas. Il y a un autre domaine encore dans lequel la grâce commune s'observe. C'est dans le domaine sociétal. La grâce commune de Dieu s'observe dans l'existence de diverses organisations et de structures sociales. Dès le départ, malgré le péché, par exemple, la famille a tenu bon. Adam et Ève sont restés mari et femme, malgré la chute. Ils ont eu des enfants qui ont eu à leur tour des enfants. Et les enfants de leurs enfants ont fondé à leur tour une famille. La famille humaine existe encore aujourd'hui pour les croyants, mais aussi pour les non-croyants. Tout cela vient de la grâce commune. Le gouvernement humain aussi est une conséquence de la grâce commune. Le gouvernement humain, les autorités ont été instituées par Dieu après le déluge. On lit dans Genèse, chapitre 9, verset 6, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » La Bible affirme clairement l'origine divine du gouvernement humain. Nous lisons dans Romains chapitre 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. L'autorité est un don de Dieu à l'humanité en général. En effet, Paul écrit dans Romains chapitre 13, verset 4, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Dans la version Semeur, étant serviteur de Dieu pour manifester sa colère. » Le gouvernement humain est un des principaux moyens que Dieu utilise pour contenir le mal dans le monde. Quand on parle de gouvernement humain, il faut entendre les lois, les forces de police, les systèmes judiciaires, etc. De tels dispositifs sont nécessaires parce qu'une grande partie du mal qui sévit dans le monde est irrationnel et ne peut être contenu que par la force. La raison et l'éducation sont alors impuissantes pour contenir ce mal irrationnel. Bien sûr, le caractère pécheur de l'homme peut contaminer les gouvernements. Et ces derniers ne servent plus à faire le bien, mais plutôt à faire le mal. D'ailleurs, toutes les autres bénédictions de la grâce commune de Dieu peuvent être utilisées soit pour le mal, soit pour le bien, à cause du caractère pécheur de l'homme. D'autres organisations humaines, comme des œuvres de bienfaisance, des institutions, des associations, ces organisations visant le bien des citoyens, sont des expressions de la grâce commune de Dieu. On peut aussi mentionner le fait que la grâce commune de Dieu et la grâce spéciale de Dieu, la grâce salvatrice de Dieu, s'influencent, se bonifient mutuellement. L'Église est au bénéfice de la grâce commune de multiples façons. La grâce commune accordée aux imprimeurs, par exemple, permet à l'Église de bénéficier de Bible et de littérature chrétienne. La grâce commune accordée à différents corps de métier permet de construire des bâtiments dans lesquels les assemblées se réunissent. De la même manière, la grâce spéciale, la grâce salvatrice que Dieu accorde à ceux qui sont sauvés, augmente les bénédictions de la grâce commune pour les non-croyants. La présence et l'action des croyants a eu une influence bénéfique sur la société tout au long de l'histoire. On peut citer l'affranchissement des esclaves, le droit des femmes, l'éducation pour tous, les progrès scientifiques et techniques, l'évolution des lois, etc. Le comportement des chrétiens dans la société, leurs prières ont été bénéfiques pour les non-croyants. L'enseignement des Écritures mis en pratique par les croyants ont eu un impact positif sur la société, tant au niveau moral qu'intellectuel. Toutefois, il ne faut pas oublier que la grâce commune ne sauve pas. La grâce commune est une manifestation de la grâce de Dieu. Par elle, les croyants, comme les non-croyants, reçoivent de nombreux bienfaits de la part de Dieu. Mais la grâce commune est différente de la grâce salvatrice. La grâce commune ne sauve pas. La grâce commune restreint le péché, mais ne change pas le cœur humain. La grâce commune ne purifie pas la nature humaine déchue. Elle ne produit pas la véritable repentance et la foi. Les actes que les non-croyants accomplissent sous l'effet de la grâce commune ne sont pas méritoires et ne permettent pas de gagner la faveur de Dieu. Ces actes ne permettent pas de gagner le salut. Ces actes ne relèvent pas de la foi. Ils ne sont pas motivés par l'amour pour Dieu, mais ils sont motivés par l'amour de soi à divers degrés et sous diverses formes. Souvent, les non-croyants reçoivent une portion plus grande de la grâce commune que les croyants. Ils reçoivent davantage de capacités intellectuelles, davantage de capacités artistiques. Ils reçoivent davantage de biens matériels. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont plus favorisés par Dieu dans l'absolu, ou qu'ils auraient quelque part à la vie éternelle. En réalité, Dieu distribue les bénédictions de la grâce commune de diverses manières, comme il lui plaît. Il accorde souvent des bienfaits considérables aux non-croyants. Dans tous les bienfaits qui leur sont accordés, les non-croyants devraient discerner la bonté de Dieu, comme on peut voir dans Actes, chapitre 14, versets 16 à 17. Ils devraient saisir que la bonté de Dieu les pousse à la repentance, selon Romains, chapitre 2, verset 4. Alors, on pourrait s'attarder sur le volet, mais pourquoi Dieu accorde-t-il sa grâce commune à des pécheurs indignes? Pourquoi Dieu accorde-t-il cette grâce si elle ne mène pas au salut? Quelles sont les raisons de la grâce commune? Eh bien, la première raison de la grâce commune est que Dieu la déverse pour racheter ceux qui sont sauvés. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 10. Pierre nous dit que si Dieu retarde le jour du jugement, c'est parce qu'il reste des hommes à sauver. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous. Il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dieu a choisi de laisser vivre les pécheurs un certain temps. Ils ont ainsi l'occasion d'entendre l'évangile et de se repentir, leurs enfants aussi et les générations futures aussi. Une deuxième raison de la grâce commune est pour manifester la bonté et la miséricorde de Dieu. Dans Luc chapitre 6, verset 35, dans Matthieu chapitre 5, verset 45, il nous a dit qu'il fait pleuvoir, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La bonté et la miséricorde de Dieu ne se manifestent pas uniquement dans le salut des croyants. Elles se manifestent aussi dans les bénédictions qu'il accorde à des pécheurs indignes. Quand Dieu est bon pour les ingrats et les méchants, selon Luc chapitre 6, verset 35, sa bonté est révélée dans l'univers pour sa gloire. David affirme dans le psaume 145, verset 9, que nous avons lu, « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » La version Semeur dit, « L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. » Dieu n'est pas injuste lorsqu'il retarde l'exécution d'une punition et accorde des bénédictions temporaires aux êtres humains. Il n'annule pas la punition, il la diffère simplement. Il montre ainsi clairement qu'il ne prend pas plaisir au jugement final, mais qui se réjouit plutôt du salut des hommes et des femmes. Ézéchiel 33, 11 nous dit « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» 1 Timothée chapitre 2, verset 4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans tout cela, l'ajournement du châtiment témoigne clairement de la miséricorde, de la bonté et de l'amour de Dieu. Une troisième raison de la grâce commune, c'est de manifester la justice de Dieu. Nous lisons dans Romains, chapitre 2, versets 4 à 5, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Lorsque Dieu appelle continuellement les pécheurs à venir à lui, et que ces derniers refusent son invitation, sa justice, en les condamnant, apparaît beaucoup plus nettement. Au jour du jugement, toute bouche sera fermée, et nul ne pourra accuser Dieu d'avoir été injuste. Une quatrième raison de la grâce commune, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Les activités des êtres humains dans tous les domaines où la grâce commune est agissante manifestent la gloire de Dieu de bien des manières. Même si ces activités sont ternies par des motivations pécheresses, elles reflètent tout de même l'excellence de notre Créateur et par conséquent rendent gloire à Dieu. Finalement, quelle doit être notre réponse à la grâce commune de Dieu? Lorsque nous considérons tous les bienfaits dont font l'objet les non-croyants du fait de la grâce commune, il ne faut pas oublier trois choses. La grâce commune ne signifie pas que ceux qui en bénéficient seront sauvés. La grâce commune, même abondante, n'implique pas le salut des bénéficiaires. Même les gens les plus doués, les plus intelligents, les plus riches et les plus puissants du monde ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ pour échapper à la condamnation éternelle. La personne à la moralité la plus réprochable, la personne la plus aimante doit accepter l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvée. L'Écriture déclare clairement que celui qui ne croit pas n'est pas sauvé, mais qu'il est un ennemi de Dieu, qu'il est contre Christ, qu'il marche en ennemi de la croix, qu'il est par nature un enfant de colère comme les autres. La deuxième chose à ne pas oublier, c'est que les bonnes choses que font les non-croyants ne sont pas à rejeter comme si elles étaient totalement mauvaises. Par la grâce commune, les non-croyants accomplissent un certain bien. Et nous devons voir dans les œuvres bonnes qu'ils font. Attention, bonne, ça ne veut pas dire gagner la faveur de Dieu. Mais bonne, c'est-à-dire qu'elles ne font pas le mal. Nous devons voir dans ces bonnes choses la main de Dieu et être reconnaissant pour la grâce commune de Dieu qui est à l'œuvre dans tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Quand nous entretenons de bonnes relations avec nos voisins ou avec nos collègues, ça vient de la grâce commune de Dieu. Tous les gestes de bonté, toutes les associations humanitaires, toutes les institutions qui cherchent à faire du bien aux hommes, ça vient de la grâce commune de Dieu. L'incroyant, en pratiquant ses œuvres, n'a pas conscience de cela, que ça vient de Dieu. Mais nous savons, nous croyons, que tout bien, toute bonne chose vient de Dieu. Et nous devons lui rendre gloire pour ça. Enfin, la grâce commune de Dieu devrait augmenter notre reconnaissance envers Dieu. Quand nous voyons la beauté de la nature autour de nous, quand nous voyons des maisons bien faites, quand nous voyons tout ce qu'un homme peut faire avec ses mains, avec son corps, avec son intelligence, nous devons comprendre que tout cela vient de Dieu et qu'il les a accordés à des pécheurs indignes. Quand nous allons dans les magasins et constatons autour de nous toutes les retombées des progrès technologiques, nous devons nous rappeler que tout cela vient de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas oublier que tout ce qui vit bon vient de Dieu, même si ce sont les inconvertis qui font ces choses. Ces bénédictions, les bénédictions de la grâce commune, sont un témoignage de la puissance et de la sagesse de Dieu. Elles sont aussi une manifestation continuelle de sa grâce abondante et nous devrions être reconnaissants envers notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs.